Slate Podcast.
You're nothing. Do I have a massive asshole?
I look like a pencil.
You never say thank
C'est
you.
That's what the money is for.
Where is everything?
Go, Anthony.
Go. I am the one who knocks.
I think that I may be the voice of my generation.
Neo.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Pic TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Marie Telling et à mes côtés se trouve ma fleabag à moi, Anaïs Bordage. Salut Anaïs.
Salut Marie.
Aujourd'hui, on vous parle d'une série qui a enchanté les critiques, fait de son héroïne une star et qui reste l'une des séries les plus influentes de ces dernières années. Je veux bien sûr parler de Fleabag.
Qu'est-ce que cette dramédie britannique a de si spécial ? Mérite-t-elle vraiment tout l'amour qu'elle a reçu ?
Oui.
On a déjà répondu. Et quel est le secret de Phoebe Waller-Bridge pour être excellente dans tout ce qu'elle entreprend ? On vous dit tout dans cet épisode.
Mais avant ça, le pic de la semaine. Anaïs, c'est quoi ton pic ?
Mon pic, c'est un peu la suite du pic de la semaine dernière, puisque je parlais de Midnight Mass, ou Sermon de minuit en français, que j'avais commencé sur Netflix, et qui me plaisait beaucoup. Et j'essayais absolument de ne pas binger et de prendre mon temps. Et je suis très contente, là j'ai enfin fini la série et j'ai fini en pleurs pendant 30 minutes devant le dernier épisode. C'était juste sublime. Je veux vraiment pas trop en révéler parce que c'est vraiment la montée en puissance de la série au fil des épisodes qui m'a touchée et je m'y attendais vraiment pas au début. Donc je veux que vous ayez la surprise si vous l'avez pas commencé non plus. Tout ce que je peux dire, donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, c'est que c'est la nouvelle mini-série de Mike Flanagan qui a fait Hill House, donc qui est un peu le spécialiste des films et des séries d'horreur qui ont du sens et de la profondeur et qui parlent, en fait, derrière l'horreur de deuil ou de...
Qui font pleurer.
Voilà, de questionnements existentiels très profonds. Là, tout ce que je peux dire, c'est que ça parle de foi, de religion, de pardon, et c'est absolument sublime. J'étais complètement dévastée à la fin, mais de manière très cathartique. Donc, voilà, je recommande, si vous ne l'avez pas encore regardé, vraiment, allez-y. Midnight Mass, c'est sur Netflix et c'est vraiment génial. Et toi, Marie, c'est quoi ton pic ?
Mon pic, c'est une déclaration d'amour à l'acteur Seth Rogen, que vous connaissez tous sûrement, je pense, qui est un peu le spécialiste des comédies de stoner américain et qui, ces dernières années, a connu une transformation absolument magnifique. C'est-à-dire qu'il est devenu un crush pour beaucoup, beaucoup de gens sur Internet, y compris moi. Il a publié récemment un livre qui s'appelle Yearbook, qui sont ses mémoires que j'ai lu cet été, qui était très sympa. Et c'est beaucoup d'histoires de stoner. Donc, un stoner, c'est bon, quelqu'un qui adore la weed. Hein, et c'est le cas de Seth Rogen, qui fume des joints dès 9h30 du matin, selon un portrait du New York Times. Donc, le livre est assez réjouissant. Mais en plus, si vous suivez Seth Rogen sur Instagram, il fait de la poterie depuis 2 ans et il fait des cendriers en poterie. Il fait aussi des magnifiques vases un peu psychédéliques et franchement, il est hyper doué. On sent que c'est un mec cool, sympa, pas problématique. J'espère en disant ça qu'il va pas le devenir. Mais c'est vraiment, clair. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment celui avec qui on a envie de passer une bonne soirée, quoi. Et donc, je le remercie pour ça. Et d'ailleurs, en lisant sur lui aujourd'hui, j'ai appris qu'il était en train d'écrire un film pour Luca Guadagnino, qui avait fait Call Me By Your Name. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Cette semaine, on vous parle de Fleabag, une série qu'on a déjà mentionnée beaucoup de fois dans le podcast parce que on est assez fans, surtout l'une d'entre nous. Et en plus,
Les deux,
oui, c'est vrai. Mais il y en a une qui est un peu obsédée. Mais et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans le podcast récemment de classiques un peu plus anciens. Mais Fleabag est vraiment devenu un classique moderne de ces dernières années dans l'univers des séries. Alors Anaïs, comment est-ce que tu décrirais Fleabag ?
Fleabag, c'est donc diffusé sur Amazon Prime en France et c'est une série qui a que 2 saisons, qui font 6 épisodes, donc c'est vraiment très très court. Et ça parle d'une jeune femme qui est surnommée Fleabag, mais qui n'est jamais nommée en fait dans la série, qui est célibataire, qui couche beaucoup à gauche à droite quand la série commence, et qui est très sarcastique, qui a un humour très mordant. Et en fait, on comprend au fil de la série qu'elle a peut-être des petits problèmes personnels à régler et qu'elle masque tout ça derrière une grosse dose d'humour. Et aussi, on va en reparler derrière certains procédés, même de réalisation dans la série, puisqu'elle s'adresse fréquemment au public, ce qui était assez incroyable quand on a découvert la série pour la première fois.
I should ask you if you want to go out for a drink with me.
And I'll be sure to treat you like a nasty little bitch.
That was a joke.
Oh, no,
sorry.
No.
Yeah. Okay. That was like, oh. Okay.
How'd you two meet?
Oh, I met her on a bus. Yeah. It's so easy to pick up girls these days. I was like, hi. And she's like, oh, take my number from me. It's awesome.
Oui, ce qu'il faut dire sur Fleabag, c'est qu'à l'origine, c'est une pièce de théâtre qui était un monologue, en fait, qui a été lancée par Phoebe Waller-Bridge, donc qui est l'actrice principale, la scénariste et la créatrice de la série. Elle avait étudié la comédie, mais à la fin de ses études, elle trouvait aucun rôle. Donc, elle a lancé une petite troupe de théâtre avec sa meilleure amie Vicky Jones, qui réalise la série. Et elle a commencé à faire des sketchs de 10 minutes à peu près. Et un des sketchs, c'était Fleabag, donc un sketch de 10 minutes qui a tout de suite bien pris. Et donc, elle a monté en une pièce de théâtre plus longue, de presque une heure, pour le Festival d'Édimbourg de théâtre, qui est un des plus grands festivals de théâtre au monde. Et ça a été un gros succès. Elle a été repérée par deux chaînes de télé britanniques, Channel 4, qui lui a demandé de faire une série. C'est la série Crashing qu'elle a fait.
Qui est excellente.
Ouais, qui est excellente, vraiment. Pas aussi bonne que Fleabag, mais très bonne quand même. Et en même temps, la BBC lui a demandé d'adapter Fleabag pour l'écran.
Tout de suite, quand on voit la série, surtout que Phoebe Waller-Bridge est partout, devant et derrière la caméra, on se dit que c'est sans doute autobiographique dans une certaine mesure. En plus, apparemment, Fleabag, c'était le surnom que sa famille lui donnait quand elle était plus jeune. Donc, clairement, il y a un petit élément autobiographique quand même dans la série.
Oui, ça veut dire sa capuce. C'était son surnom d'enfance dans sa famille. Mais elle a déclaré quand même que c'était très personnel comme série, mais pas autobiographique. Donc, elle s'identifiait vraiment avec les émotions et c'est ça qu'elle a utilisé. C'était ses émotions et ses sentiments à elle et des observations aussi qu'elle avait sur sa place dans le monde et sur la place des femmes dans le monde en général pour créer le personnage de Fleabag. Mais l'histoire de Fleabag en elle-même et son comportement n'est pas liée à la vie de Phoebe Waller-Bridge, même s'il y a des petites scènes apparemment et des dialogues qui sont repris de sa vie. Ce qu'a dit Phoebe Waller-Bridge au sujet de son personnage, c'est aussi ce que je ressens quand je regarde la série, c'est-à-dire que j'ai eu un processus d'identification très très fort avec Fleabag, que j'arrivais même pas à m'expliquer parce que, pour être honnête, je n'ai jamais utilisé le sexe comme une façon de masquer mes problèmes ou des choses comme ça. Je n'ai pas vécu des deuils énormes où j'ai ressenti une grosse culpabilité. Donc je comprenais pas pourquoi je m'identifiais autant, mais c'est en fait c'est ce qu'elle décrit aussi, c'est-à-dire que je m'identifiais avec ses émotions et avec sa façon de penser et avec la façon dont elle se voyait dans le monde et dont elle se percevait et son évolution aussi, son arc narratif m'a énormément émue en fait.
Et aussi parce que t'es grande et brune et que tous les Américains te disaient « Ah, mais tu ressembles à Fleabag !»
Oui, c'est vrai. Et on s'habille un peu pareil. Donc. J'ai dit tout à l'heure qu'il y en avait une de nous deux qui était plus obsédée par Fleabag, c'est moi. Mais en vrai, tu es aussi fan de Fleabag, il y a juste eu un petit shift entre nous deux au moment de la deuxième saison.
C'est assez intéressant comme phénomène parce que je me souviens très précisément quand on a vu la saison 1 toutes les deux et qu'on s'appelait pour en parler parce qu'on était complètement chamboulé par cette série dont personne ne parlait à l'époque et on se disait « Ouais, mais t'as vu ça, c'est incroyable, en à peine 6 épisodes, ce qu'elle arrive à faire, etc. » Il s'est passé beaucoup de temps avant la saison 2 qu'on anticipait pas mal. Et en fait, je me souviens, toi, tu t'es tout de suite jeté dessus alors que moi, j'ai attendu un peu pour voir les épisodes. Et de semaine en semaine, en fait, il y avait un tel phénomène autour de la saison 2, les gens devenaient complètement fous sur Internet. Et toi, je me souviens, tu m'écrivais des messages à chaque fois en me disant « Il faut que tu regardes Fleabag, c'est incroyable ce qui se passe, etc. » Et je me suis sentie limite un peu écrasée en fait par la popularité de la série où j'avais l'impression que l'amour que j'avais pour cette petite série dans la saison 1 m'appartenait plus et que ça me dépassait un petit peu et donc je me suis retrouvée limite dans la position de celle qui n'aimait pas alors que c'est pas vrai, j'ai adoré mais comparée à toi et le reste d'Internet, j'avais l'impression que j'aimais moins parce qu'il y avait une espèce de passion complètement démesurée pour la saison 2 mais en même temps c'est génial, enfin, c'est rare quand une série qu'on aime autant devient aussi aimée par tout le monde et oui, c'est plutôt pas... quelque chose dont on devrait se réjouir en fait.
Non mais je comprends. La snob en moi n'a pas adoré le fait que je partage les mêmes goûts que tout Twitter.
Nous, on avait adoré dès la saison 1 et j'avoue que j'ai même pas compris quelle avait été la différence en fait entre la saison 1 et la saison 2 pour que ça devienne cet énorme phénomène.
Moi, j'ai compris.
Ouais, c'est le hot priest.
Bah évidemment, c'est qu'il y a mais non, mais ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'il y a l'introduction d'un nouveau personnage qui est joué par Andrew Scott, qui est quand même un des hommes les plus séduisants de la planète, qui joue un prêtre hot, sexy, avec qui elle a un will day one day, on en parle très souvent, donc elle a une tension sexuelle de malade pendant les 6 épisodes, et en plus il y a un interdit, c'est hyper subversif parce que c'est un prêtre. Évidemment que c'est pour ça, quoi, parce que la série est devenue sexy, en fait. Avant, elle était marrante et il y avait beaucoup de sexe et on va en parler. Mais avec l'arrivée du Hot Priest, il y avait un suspense. C'est-à-dire que quand on regardait la première saison, on savait pas vraiment où elle voulait nous mener au début. On avait l'impression de regarder une série un peu fun sur une meuf paumée qui couche à droite, à gauche et qui a une vie un peu foutraque. Et c'est à la fin de la saison qu'on a compris tout le propos de la série. Là, dès le début, il y avait un enjeu. C'est-à-dire que déjà, on l'a retrouvée, on savait ce qui se passait avec elle, on connaissait les tensions avec les autres personnages. Et en plus, on avait ce personnage-là où tu comprends dès le début, il va peut-être se passer quelque chose et donc t'es tenu en haleine complètement. Et c'est aussi pour ça que c'était diffusé semaine après semaine Internet devenait fou, quoi.
Ouais, c'est vrai, la tension montait de plus en plus, mais c'est marrant parce que j'ai un peu changé d'avis maintenant, mais à l'époque, moi, j'avais été tellement bouleversée par le final de la saison 1 parce que, en fait, ça parlait pas d'amour, ça parlait de santé mentale. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plus touchée à l'époque. Et la saison 2, j'étais là, oui, bon, ok, ça parle d'amour, mais ça m'intéresse moins, en fait. Maintenant, j'ai revu la saison 2 et la saison 1 plein de fois, et je trouve qu'il y a une profondeur supplémentaire dans la saison 2, mais que, honnêtement, j'ai pas perçu à l'époque. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne s'excitait comme ça pour la saison 1 qui était brillante? Et là, tout le monde s'excite. Mais en fait, c'est parce que les gens sont basiques, ils veulent juste des hot priests, quoi.
Bah ouais. Bon, alors ça, moi, j'assume. Bon, il faut parler de ce qui est un peu révolutionnaire dans Fleabag et ce qu'il a été dès la première saison, c'est l'utilisation du quatrième mur, c'est-à-dire le rapport avec le spectateur, le téléspectateur. Ce qui est particulier dès le premier épisode de Fleabag, c'est qu'elle s'adresse directement à nous. Donc, elle va être dans une scène avec quelqu'un et d'un coup, elle va se tourner vers la caméra. La personne avec qui elle parle ne s'en rend pas compte et elle nous parle ou elle nous fait un clin d'œil ou elle nous raconte une blague pour nous mettre dans la complicité.
You know that feeling when a guy you like sends you a text at 2 o'clock on a Tuesday night asking if he can come and find you and you've accidentally made it out like you've just got in yourself so you have to get out of bed, drink half a bottle of wine, get in the shower, shave everything, dig out some agent provocateur business, suspend a belt the whole bit and wait by the door until the buzzer goes. And then you open the door to him like you've almost forgotten he's coming over. Oh, hi. And then you get to it immediately.
House of Cards l'a fait, il y a plein de séries qui l'ont fait. Ça peut être un peu un gimmick un peu cheap, mais Phoebe Waller-Bridge l'utilise vraiment très très bien, c'est très fin et surtout elle fait tout un jeu là-dessus. Dans la deuxième saison, déjà, on comprend dès la première saison pourquoi Fleabag nous parle. C'est parce qu'elle n'a personne d'autre à qui parler et qu'elle est très seule. C'est très pertinent, en fait, l'utilisation du public. Et c'est ce qui a motivé Phoebe Waller-Bridge à faire une deuxième saison. Parce qu'à la base, elle ne voulait pas poursuivre l'histoire de Fleabag. Mais c'est quand elle s'est rendue compte qu'elle pouvait faire quelque chose d'intéressant avec ce quatrième mur, justement, et avec l'audience, et avec le format narratif. C'est pas le hot priest qui l'a motivé, c'est vraiment ça, qu'elle a décidé de le faire. Et c'est vrai que dans la deuxième saison, on voit vraiment une évolution à ce niveau-là.
À la fin de la première saison, moi, c'est ça qui avait achevé de me convaincre. C'était justement la manière dont elle renversait l'utilisation du quatrième mur, parce que justement, on est ses complices pendant toute la saison. Et en fait, à la fin, quand on apprend qu'elle a une énorme culpabilité, en fait, qu'elle essayait de masquer un peu depuis plusieurs épisodes, elle fuit la caméra et elle se sent harcelée et étouffée par la caméra. Et donc, le lien de complicité qu'elle avait avec nous se transforme en lien un peu d'agressivité de notre part, où elle veut se cacher, elle supporte plus notre regard. Et ça, j'avais trouvé ça brillant. Et donc, c'est vrai que dans la saison 2, elle est allée encore plus loin. Mais dès la saison 1, on avait des éléments quand même qui montraient qu'il y avait une vraie réflexion et que c'était pas juste comme Frank Underwood qui regarde la caméra pour provoquer un peu. Ça allait déjà un petit peu plus loin.
Oui, et puis Frank Underwood, c'était littéralement pour expliquer des éléments de l'intrigue parce que c'était mal écrit. Alors clair. Que là, c'est vraiment un complément. Et dans la saison 2, il y a une scène où elle va voir une psy parce que son père lui offre un bon pour aller voir une psy.
Mais comme le dit le personnage du Hot Priest, je tuerais pour avoir ça.
C'est vrai, moi aussi. Mais enfin bon, bref, elle va voir une psy et à un moment, sa psy lui demande « Est-ce que vous avez des amis ?» Elle dit « Oui, plein. » Et là, elle regarde la caméra et on comprend que c'est nous, ses amis. Et elle lui dit « Est-ce que vous les voyez souvent ?» Elle lui dit « Je les vois tout le temps. »
Just a girl with no friends and an empty heart. By your own description.
I have friends.
Oh, you do have someone to talk to.
Yeah.
Do you see them a lot?
Oh, they're always there. They're always there.
Et donc, on comprend vraiment ce rapport et on va en parler plus tard sur d'autres thèmes, mais c'est quelque chose qui évolue et qui est très présent dans la série.
L'autre élément vraiment intéressant de Fleabag dès la saison 1 et qui a fait qu'on est tout de suite rentrés dedans toutes les deux, c'est qu'il y a ce côté subversif, t'en as parlé, avec la sexualité. C'était une époque où, en fait, on était encore hyper émoustillés de voir des séries féminines, féministes, qui parlaient de sexualité féminine de manière crue. Il y a eu d'ailleurs des comparaisons avec Sex and the City.
Et avec Girls aussi.
Il y avait aussi, au même moment, en fait, il faut rappeler I Love Dick qui est sorti, qui avait aussi un propos très fort sur la sexualité féminine et qui cassait beaucoup, beaucoup de tabous. Il y avait Transparente qui existait déjà depuis quelques saisons et qui, pareil, allait vraiment déconstruire beaucoup d'idées reçues sur la sexualité féminine. Et donc, Fleabag s'inscrit là-dedans. Et d'ailleurs, dès la scène d'ouverture, c'est une scène de sexe assez crue puisqu'elle est en train de parler à la caméra pendant qu'elle est en train de se faire prendre par derrière. Et que donc, elle commente un peu sa sodomie.
Mais parce qu'elle est surprise, en fait, par ce qui se passe. Elle n'avait pas prévu ce développement.
Voilà. Et le truc génial, c'est que le lendemain, le mec lui dit « J'ai jamais pu faire ça avec qui que ce soit. » Et elle dit à la caméra, encore une fois, « C'est vrai qu'il a quand même un pénis assez gros. » Et donc, toute cette scène-là, en fait, est construite pour arriver à la punchline finale, qui est qu'elle s'interroge des heures après, toute seule, et qu'elle regarde la caméra et qu'elle dit « Mais est-ce que j'ai un trou du cul vraiment si large que ça ?»
Do I have a massive asshole?
Et j'avoue que commencer une série comme ça, avec une femme qui, en plus, t'en avais déjà parlé, mais qui est assez proprette, qui a un petit accent poche, etc., c'est hyper
Mais c'est pour ça qu'elle peut le faire aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les séries que t'as citées sur la sexualité, ce qu'elles ont pas comme Fleabag, c'est de l'humour. C'est-à-dire qu'elles peuvent en avoir, mais pas au même niveau que Fleabag, qui est vraiment très marrante et un peu rentre-dedans là-dessus. Et surtout, elle peut se permettre ça parce que justement, elle est poche. Elle a un accent Cambridge absolument parfait.
Elle a une attitude très caustique aussi.
Oui. Et puis, elle fait très chic, en fait. Tu sens qu'elle a fait ses classes dans des écoles privées et qu'elle vient d'une famille bourgeoise. C'est le cas, en fait, hein, de Phoebe Waller-Bridge.
C'est pour ça que Marie s'identifie avec elle.
Quelle image les gens vont avoir de moi. Mais c'est pour ça qu'elle peut se permettre aussi de faire ce genre de blagues et ce genre de commentaires et qu'on trouve ça hyper charmant et subversif parce que justement, ça en décalage avec son personnage. C'est très anglais, en fait.
Ouais, complètement. La série nous dit qu'en fait, la sexualité est un peu un mécanisme de défense pour elle, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose derrière ça. C'est pas que du Sex and the City, c'est pas qu'un commentaire sur la sexualité féminine, mais c'est quand même ça. Et moi, j'avoue que c'est ça qui m'a accrochée dès le début. C'est comme dans la scène où elle se masturbe en regardant un discours d'Obama.
Ça, c'est devenu culte.
C'est plein de moments que j'avais l'impression de jamais avoir vu à la télé, qui était vraiment un souffle d'air frais dans le monde des séries, de voir une femme comme ça qui parle très crûment de sexualité et aussi juste de féminité, parce qu'il y a une autre scène culte qui est dans l'épisode 2 quand ses règles commencent et qu'elle est dans le métro et qu'elle imagine tout le monde en train de chanter de manière hyper torturée dans le métro parce qu'en fait tout devient plus émo quand on s'apprête à avoir ses règles. Et donc tout ça, c'était hyper novateur à l'époque, mais évidemment ça servait aussi à donner un autre propos encore plus profond derrière.
Et elle poursuit ce propos dans la saison 2 où en fait Fleabag a un peu arrêté ses aventures d'un soir, mais où il y a cette relation peut-être avec le Hot Priest. Littéralement, il n'a pas le prénom, hein. Il s'appelle le Hot Priest, le prêtre sexy.
The priest is quite hot, so hot.
Il y a aussi un personnage qui s'appelle Sexy Misogyne.
Oui. Et donc, ce côté un peu subversif autour du sexe se poursuit dans la saison 2 où elle n'a pas de relation d'un soir vraiment, mais où il y a donc cette relation avec ce prêtre que certains auront trouvé subversif. Pas Anaïs, moi un peu quand même, parce que j'ai été en école privée catho pendant quelques années, donc ça m'a un peu marquée. Mais c'est vrai qu'elle joue vachement de ça, où on la voit mater les peintures de Jésus où il est sur la croix et donc il est à moitié nu. Elle le regarde avec d'un œil un peu lubrique, elle lit la Bible dans son bain et elle est un peu genre « Ouh !»
Un peu émoustillée.
Voilà, exactement. Et en plus, il y a la relation avec le prêtre. Donc, elle joue quand même pas mal de ce qui est tabou dans la façon dont elle parle du sexe.
C'est le propos de toute la série, c'est-à-dire que ce qu'elle trouve érotique, elle le dit en fait. C'est pour ça que, par exemple, his neck, son cou...
Oh là là.
Do you prefer weddings or funerals?
Weddings. His arms.
I think there's something humbling about funerals.
Really?
Yeah, it's good to dwell on the next life.
You really think there's a next life?
What do you believe? Worm food.
Why?
Why what? His neck.
Why would you believe in something awful when you can believe in something wonderful?
Don't make me an optimist. You will ruin my life.
Have you been to many funerals?
A couple. His neck.
And you never felt them go somewhere?
No, they were already gone. His beautiful neck.
What?
C'est resté des répliques comme ça qui sont devenues cultes parce qu'en fait, elle s'extasie devant chaque port du Hot Priest et elle le verbalise. Et ça, j'avais l'impression aussi que c'était assez rare de voir juste une meuf totalement obsédée par le mec qui est à côté d'elle et l'exprimer de cette manière à la télé.
Oui, j'ai très rarement vu une meuf en chien à ce point, mais surtout qui le fait de façon où je me suis un peu identifiée, où justement la focalisation sur des parties du corps un peu random comme
oui, sauf qu'en
le
fait,
cou, quoi.
Tout enfin, le monde le fait.
Bah,
c'est
évidemment,
juste que
mais
ça
on
n'avait jamais
pas,
été dit voilà, de manière aussi frontale à la télévision, mais en fait, tout le monde le fait et c'est pour ça que tout le monde s'est reconnu.
Oui, parce que la scène, en fait, c'est qu'elle marche à côté de lui et elle fait que répéter à nous, les spectateurs, son cou, son cou. Son magnifique coup. Et au bout d'un moment, il l'entend parce que...
C'est elle... ça, parce qu'elle le répète tellement que...
Bah oui. Comme tu disais, le traitement du sexe dans la série cache quelque chose de plus profond et c'est l'état de la santé mentale du personnage principal, de Fleabag, qui, on s'en rend compte très vite, elle vient de vivre deux très gros deuils, sa mère il y a 2 ans et sa meilleure amie beaucoup plus récemment. Et on va apprendre les circonstances de la mort de sa meilleure amie, qui en fait était un pseudo-suicide parce qu'elle voulait pas vraiment suicider, elle voulait faire une tentative pour rendre son mec, enfin le faire culpabiliser, parce qu'il l'avait trompé. Et on va apprendre un peu les circonstances de cette mort au fur et à mesure de la saison, mais c'était un peu le rock de la vie de Fleabag, cette meilleure amie, et elle vient de la perdre au début. Donc elle traverse vraiment son deuil et elle est très seule. Et ça, la série l'analyse beaucoup.
On se rend compte dans la saison 1, comme dans la saison 2, même si ça parle aussi d'amour et d'autres choses, que c'est une série sur le deuil, en fait, profondément. Et d'ailleurs, il y a cette phrase très belle où elle parle justement du deuil de sa mère et elle dit « Qu'est-ce que je suis censée faire avec tout cet amour? Je sais pas où le mettre maintenant que ma mère est morte. » Et il y a plein de répliques, mais absolument bouleversantes dans la série, qui expliquent un peu voilà, ce que ça fait de se retrouver endeuillé et à la fois par une rupture, par exemple, amoureuse, comme par un vrai deuil et par la perte de la personne qui nous était la plus proche.
Oui, ce qui est très beau, en plus, quand elle dit ça, justement, c'est qu'elle le dit à sa meilleure amie qui lui dit, c'est dans un flashback, qui lui dit bah, « Donne-le-moi tout cet amour, moi je peux le prendre. »
Et après, ensuite, elle perd aussi sa meilleure amie. Ouais.
« I don't know what to do with it. All the love I have for her. I don't know where to put it now.
I'll take it. No, I'm serious. It sounds lovely. I'll have it. You have to give it to me.
Il y a des thèmes, c'est assez profond et c'est dur quand même. On comprend que ce qu'elle a vécu est très, très difficile. Sous le vernis, justement, de l'humour et du sarcasme et du côté un peu sexy. Et il y a vraiment cette culpabilité aussi qui traverse toute la série. Bon, là, je vais spoiler, mais on parle de la série depuis tout à l'heure. Donc, mais si vous voulez vraiment pas savoir ça, avancez de 15 secondes. On apprend que, en fait, le mec de sa meilleure amie avait couché avec elle et que c'est pour ça que sa meilleure amie avait appris qu'il l'avait trompée. Elle ne savait pas avec qui, mais Fleabag sait bien sûr que c'était avec elle-même. Et c'est ça qui a causé la mort au final de sa meilleure amie. Donc, elle a vraiment ça sur la conscience. Et c'est quelque chose qui traverse toute la série. Et à la fin de la saison 1, une des scènes un peu cultes, c'est sa sœur qui ne la croit pas quand elle lui dit quelque chose sur son mari. Et qui va dire « Comment tu veux que je te croie après ce que tu as fait à Bou ?» qui est le nom de sa meilleure amie.
« What are you doing here ?»«
I'm helping.
He didn't try to kiss you. »«
He did. »«
He says it was more like the other way around. »«
What ? But that's just not true. »« No, no, fuck you. » Claire,
please don't.
No, Claire,
please.
He came out into the garden.
I don't want to hear it.
Claire, you have to believe me.
How can I believe you?
Because I'm your sister.
After what you did to Boo.
I'm sorry, but you just have to see it from my point of view.
Ce qui est intéressant, c'est que la première saison finit de manière très très sombre justement avec cette scène et toute la première saison on s'en rend compte c'est un peu la destruction ou l'effondrement de cette héroïne qui a passé en fait tous les épisodes à utiliser des stratégies d'évitement que ce soit l'humour, que ce soit le sexe, que ce soit l'utilisation du quatrième mur pour ne pas confronter sa culpabilité et son deuil. Et en fait, tout ça s'effondre à la toute fin de la saison 1. Et ce qui est très beau dans la saison 2, c'est que là, pour le coup, il y a un arc différent. Tu l'as dit, elle a attendu longtemps avant de faire la saison 2. Elle était même pas sûre de vouloir la faire à la base. Et on est très, très contente qu'elle l'ait faite parce que cette saison 2 est magnifique et que pour le coup, là, c'est un peu une reconstruction et ça se termine sur une note quand même d'espoir, beaucoup plus positive.
Comme tu le dis, la saison 2, c'est vraiment sa reconstruction. Et en fait, ça commence par une scène où on voit Fleabag dans les toilettes d'un restaurant et elle a le nez ensanglanté. Elle est en train de s'éponger le nez. Elle donne un papier aussi à une jeune femme qui est allongée par terre avec le nez ensanglanté aussi. On ne sait pas ce qui se passe. Et d'un coup, elle regarde la caméra et elle dit
This is a love story.
C'est une histoire d'amour. Et en fait, c'est vrai que la saison 2 est une histoire d'amour sur plusieurs niveaux. Il y a même un moment où, bah, dans le dernier épisode, son père lui dit, avec qui elle a beaucoup, beaucoup de mal à communiquer, c'est un peu la blague de son père, qui ne sait jamais rien dire, en fait.
Clair.
Il dit toujours, ah bah,
c'est et super voilà, que... vraiment.
Exactement. Et là, enfin, ils ont une vraie conversation à un moment, et il lui dit, je crois que tu sais aimer mieux que n'importe qui d'entre nous, et c'est pour ça que tu trouves ça tellement difficile. Et c'est vraiment l'arc de cette saison, c'est pas très difficile à trouver vu qu'elle dit dès la première minute, mais c'est vraiment l'amour. Et d'abord, bon, bien sûr, il y a l'histoire d'amour avec le prêtre, on en a parlé, mais c'est vrai qu'à travers lui, elle trouve un peu un alter ego, quelqu'un en qui elle se reconnaît, quelqu'un qui est aussi dans la fuite, et lui, c'est pas à travers l'humour ou le sexe, c'est à travers bah, la religion. parce qu'il avait un côté destroy avant et qu'il se trouvait pas, et il a réussi à trouver des réponses à travers son lien avec Dieu. Et tout de suite, on sent qu'il y a une connexion entre les deux.
Presque tout de suite, puisque c'est ça qui est savoureux quand on revoit aujourd'hui le premier épisode de la saison 2, qui reste un chef-d'œuvre d'écriture, de montage, de mise en scène, d'interprétation. Enfin, c'est un des meilleurs épisodes de ces 20 dernières années. Et au tout début, en fait, il est quasiment anecdotique, le prêtre. Il y a tous les personnages qui sont autour d'une table de restaurant. Tout l'épisode se passe dans ce restaurant et autour de ce restaurant. Et en fait, elle dit même au début, quand la première fois qu'on le voit, elle dit « je sais pas qui c'est ce mec ». Et ils s'affrontent même un petit peu au début. Elle est assez tendue et elle l'envoie bouler en fait à 2-3 reprises.
Oui, mais tu sens déjà qu'il y a une petite tension.
Si tu es Mary Telling, tu sens déjà qu'il y a une petite tension. Mais c'est ça qui est génial en fait, c'est que c'est vraiment très subtil et qu'on comprend assez rapidement qu'ils vont se comprendre. Mais au début, en fait, eux-mêmes ne s'y attendent pas. Ils sont assis l'un à côté de l'autre et ils communiquent absolument pas. Elle est totalement obnubilée par ses autres problèmes et par ses relations avec tous les autres personnages autour de la table. L'épisode se termine sur sa sœur qui lui dit « il est quand même hyper sexy le prêtre hein. ». Et elle dit « ouais, il est vraiment hyper sexy ». Et là, c'est bon, on est lancé.
Ce qui est génial aussi, c'est que ce moment où il dit « il est hyper sexy », c'est ce que tout le monde a pensé en fait à la fin de cet épisode, c'est qu'il est hyper sexy. Et quand elle le dit, moi j'étais « ah ouais, ouais, ouais ».
Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui a toujours marché dans Fleabag, c'est-à-dire que souvent, ces commentaires qu'elle fait à la caméra, c'est aussi parfois des commentaires méta qui vont permettre d'alléger un petit peu la tension parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et elle commente directement ce qui est en train de se passer. Et là, ça se passe pas avec un commentaire caméra, ça se passe entre les deux. Mais en plus, c'est un peu un moment de réconciliation puisqu'elle commence l'épisode en froid. Et effectivement, on peut confirmer.
Il est très sexy.
Il est très sexy dans cet épisode.
Ce qui est intéressant avec l'évolution de ce personnage et de leur relation, c'est que ça va être la première personne, on l'a dit, qui la voit vraiment. Dans le sens où il va voir, en fait, les moments où elle s'adresse à l'audience. Alors que personne d'autre ne les remarque. Il y avait vraiment une coupure entre son existence dans la série et la façon dont elle nous parle. Mais là, en fait, lui va le voir. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est la première personne, en fait, à la voir tout court. C'est-à-dire qu'il perce à travers sa
carapace.
Sa carapace, voilà.
Et il y a cette scène qui est devenue, tout de suite culte et qui a fait surréagir tout Twitter au moment où elle est sortie, où en fait, elle regarde la caméra et lui se met à regarder la caméra aussi, il se retourne et lui dit « Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu regardes où ?»
Celibacy is a lot less complicated than romantic relationships.
What if you meet someone you love?
We're not going to have sex. It won't bring any good.
No, it might.
I've been there many times.
How many times?
Many. I'd really like to be your friend, though.
I'd like to be your friend, too. We'll last a week.
What was that?
What?
Where did you just go?
What?
You just went somewhere. There.
Et ça, c'était complètement fou au moment où l'épisode est sorti, parce que briser le quatrième mur, tu l'as dit, c'est quelque chose que beaucoup d'œuvres ont fait quand même. Mais là, il y a un niveau supplémentaire où lui brise le quatrième mur pour commenter sur le fait qu'elle est en train de briser le quatrième mur. Et là, explosion du cerveau, quoi.
Non, clairement. Et puis, explosion du cerveau, mais en plus, ça veut vraiment dire quelque chose par rapport à ce personnage.
Exactement.
Et par rapport au développement de leur relation. Et d'ailleurs, il y a un autre moment, une autre scène cultissime, qui est la scène du Neil, donc à genoux.
La scène qui a fait s'enflammer la culotte de Mary Telling.
Je ne rentrerai pas dans ce détail, mais c'est sûr qu'elle a eu un effet très fort sur moi et sur beaucoup, beaucoup de monde, hein, honnêtement.
Oui.
Et ce qui se passe dans cette scène, c'est qu'ils ont eu une petite confrontation plus tôt dans l'épisode et elle se rend à l'église le soir tard pour prier, mais elle le trouve là en train d'écouter du Jennifer Lopez. C'était dans la version originale, c'était du Jenny from the Block, mais ils l'ont changé à cause des droits dans la version française, malheureusement. Donc elle le trouve là, il est bourré et il lui dit « Viens, je veux te poser des questions », ils vont dans le confessionnal. Et là, elle se livre à lui et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une des rares scènes de Fleabag où elle ne s'adresse à aucun moment au spectateur. Elle est dans un moment vraiment de confession
de vulnérabilité.
Et de vulnérabilité avec lui. Et donc, elle n'a pas besoin de nous parler à ce moment-là. Elle est vraiment dans une vraie connexion avec lui. Ce qui n'est pas le cas avec les autres où elle a toujours justement ce vernis normalement. Ce qui est intéressant aussi au niveau de leur relation, c'est qu'elle lui avoue dans cette scène que ce qu'elle veut, c'est qu'on lui dise quoi faire. C'est qu'on lui donne des ordres, c'est qu'on dicte sa vie parce qu'elle a l'impression de ne pas savoir comment mener sa vie. Elle a l'impression de tout louper. Elle a l'impression de ne pas savoir pour qui voter, pas savoir quoi manger, pas savoir comment réussir sa vie.
I want someone to tell me what to wear in the morning.
Okay, well, I think there are people who can...
No, I want someone to tell me what to wear every morning. I want someone to tell me what to eat, what to like, what to hate, what to rage about, what to joke about, what not to joke about. I want someone to tell me what to believe in, who to vote for, and who to love, and how to tell them. I just think I want someone to tell me how to live my life, Father, because so far I think I've been getting it wrong.
Je pense que ça parle à énormément de gens quand on entend ça. Et ce qu'on comprend aussi, c'est que lui le comprend très bien parce que c'est ce qu'il est allé chercher dans la religion aussi. Mmh. C'était des dogmes et des règles qui lui permettent de vivre sa vie sans se poser ce genre de questions.
Et donc, en fait, c'est ce qu'il finit par faire avec elle. C'est-à-dire que elle pense qu'il est encore dans le confessionnal. Il lui demande de s'agenouiller.
Kneel.
Donc, de manière religieuse ou spirituelle, on va dire. Et ensuite... il ouvre le rideau du confessionnal et en fait, il se retrouve devant elle, elle qui est agenouillée. Et ça se transforme donc en geste qui n'est pas forcément un geste spirituel, mais un geste romantique, puisqu'il se baisse, il lui caresse le visage, il l'embrasse.
C'est aussi spirituel parce qu'il est une autorité religieuse.
Exactement.
Il y a même la musique, il y a un jeu avec la musique.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, les deux s'entremêlent et c'est ça qui est génial. C'est comme elle entremêle vraiment très très bien le drame et l'humour et la sexualité et la santé mentale, etc. Là, elle entremêle justement cette espèce d'épiphanie qu'elle a et ce moment de vulnérabilité totale avec quelque chose de très 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 romantique, de très sexy, et où en plus justement, limite, on va pas dire qu'il abuse de son autorité, mais en fait il lui demande de s'agenouiller à un moment où elle est très vulnérable et ensuite il l'embrasse. Donc il y a vraiment quelque chose de très... il y a un peu un tourbillon d'émotions à ce moment-là. Ils commencent à s'embrasser, ils s'apprêtent même à coucher ensemble, et là en fait il y a un tableau au fond de l'église qui tombe comme un signe divin qu'en fait, il vaudrait mieux pas qu'ils couchent ensemble tous les deux. Et c'est un peu la tension depuis le début, c'est qu'ils savent que c'est interdit et qu'ils ne devraient pas, mais ils en ont très envie.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de cette scène, il part précipitamment, il la laisse là, et d'un coup, elle nous regarde à nouveau. Et c'est le premier moment depuis le début de la scène où elle établit à nouveau un contact avec nous. Et elle fait une moue un peu triste parce qu'elle est peinée qu'il soit parti et qu'elle n'ait pas pu conclure.
Effectivement, et nous aussi.
Oui.
Ce qui est très très beau avec cette relation, c'est qu'il y a le côté will they, won't they dont tu as parlé, mais en fait, il mène vers autre chose, c'est-à-dire que la finalité, c'est pas de savoir s'ils vont se mettre ensemble ou pas, c'est vers où cette relation qu'elle va développer avec lui va la mener, elle, en fait. Et ça va la mener sur un chemin de rédemption et d'acceptation et de pardon de soi. Et il y a cette scène finale très très belle sous l'abribus, où en fait, ils acceptent un petit peu que c'est pas le bon chemin pour eux deux forcément de continuer à être ensemble, mais elle en comprend qu'elle a grandi à travers cette relation et que c'est la première fois en fait qu'elle a vraiment aimé, et ils se disent tous les deux qu'ils s'aiment, et c'est à la fois hyper triste, hyper mélancolique et hyper beau et plein d'espoir. Et vraiment, cette scène, elle est bouleversante.
La première fois depuis la mort de sa meilleure amie et de sa mère.
Oui.
C'est une histoire d'amour donc avec le prêtre, mais quand elle dit « This is a love story », c'est pas juste une histoire d'amour avec le prêtre, sinon ce serait beaucoup trop simple. Il y a plusieurs histoires d'amour vraiment dans Fleabag. Il y a bien sûr son histoire d'amour avec sa meilleure amie qu'elle a perdue et qui revient beaucoup en flashback. Et Phoebe Waller-Bridge avait dit qu'elle était très intéressée. En fait, c'était quelque chose qu'elle voulait raconter, c'était son amitié avec Vicky Jones, qui est la réalisatrice, et le rapport de l'amitié. Et donc, c'est très présent dans la série, mais le personnage très présent aussi, c'est sa sœur, qui, elle, pour le coup, a une relation très conflictuelle avec Fleabag. Mais justement, l'arc un peu narratif de leur relation, c'est qu'à la fin, elles ont une réconciliation.
À la fin, elles abordent même la question du cliché de la course-poursuite romantique où, à la fin de la rom-com, on va faire un grand geste et on va poursuivre la personne de nos rêves à l'aéroport. Elle encourage sa sœur à faire ça pour l'homme qu'elle aime. Et en fait, sa sœur lui dit non, déjà, enfin, c'est ridicule et puis c'est pas du tout pratique. Il faudrait que j'achète un billet. Je sais même pas dans quel terminal il est. Donc, elle déconstruit un peu tout ce cliché qu'on a déjà vu dans plein de rom-com. Et en même temps, ça atterrit sur quelque chose de très poétique où elle lui dit la seule personne pour laquelle je courrais à travers un aéroport, c'est toi. Et donc là, effectivement, on a de manière très évidente une histoire d'amour entre deux sœurs qui va supplanter justement une relation romantique qui pourrait avoir lieu entre sa sœur et le mec qu'elle aime à ce moment-là.
Même si la relation a lieu quand même, mais oui, on sent que en fait, la plus belle histoire d'amour au final de cette série, c'est son histoire d'amour avec sa sœur aussi. Et aussi, son histoire d'amour, attention, profondeur, son histoire d'amour avec elle-même.
Wow.
Non, mais c'est vrai. Enfin bon, là, ça fait très cliché de dire ça, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la dernière scène, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est vraiment dans un rejet de soi, dans une culpabilité constante dans la première saison, qui a commencé un peu à faire un travail sur elle-même après l'effondrement de la fin de la saison 1, quand on la retrouve au début de la saison 2, et à la fin, en fait, de la saison 2, à travers son histoire d'amour avec le prêtre, à travers sa relation avec sa sœur qui est très apaisée, on sent qu'elle arrive enfin à s'aimer, à s'accepter, et après, justement, cette séparation avec le prêtre, on la voit qui s'éloigne, et elle nous regarde par-dessus l'épaule, et elle nous dit au revoir, en fait. Et elle nous dit, on comprend qu'on ne vient pas avec elle, la caméra s'arrête là, et la voit partir. Et on comprend qu'elle peut continuer le chemin sans nous, parce qu'elle a grandi.
Ouais, c'est ça, elle dit même d'ailleurs à la caméra, elle lui dit non. Elle dit, c'est pas la peine de me suivre, à partir de maintenant, je me débrouille seule, en fait. C'est un peu ça, ce qu'elle nous dit. Et il y a cette idée que, en fait, depuis le début, elle a toujours été absente d'elle-même, parce qu'à chaque fois qu'elle regardait la caméra, c'était une manière d'être dissociée, en fait, enfin, de ne pas du tout être présente et d'être en phase avec ses émotions. Et là, on comprend qu'à travers tout ce voyage et ses relations, et notamment sa relation avec le Hot Priest, elle a appris à être enfin présente et que... Même si elle ne finira pas avec Andrew Scott, ça finira sans doute bien pour elle.
Oui, et puis elle a appris que malgré tout ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle a pu traverser, malgré ses pires côtés, elle est digne d'amour. Et c'est vraiment ça qu'elle a appris avec, je pense, le prêtre.
C'est beau.
C'est très beau, mais moi ça m'émeut à chaque fois. Mais oui, je trouve ça très beau.
Non, mais c'est vraiment une grande série, vous l'aurez compris. Si vous n'avez pas encore regardé Fleabag, bon, on vous a un peu tout spoilé.
Ouais, j'espère que vous l'aviez regardé. Parce que
voilà,
sinon...
mais on vous encourage quand même à regarder la série ou à la revoir parce que vraiment, moi je l'ai revue du coup de nombreuses fois. C'est ça qui est bien quand il n'y a que 12 épisodes. Et à chaque nouveau visionnage, en fait, j'ai l'impression d'apprendre quelque chose de différent et que la série gagne en profondeur. Donc vraiment, regardez-la. Un autre truc aussi qu'on n'a quand même pas trop dit, mais qui est exceptionnel et qui fait que la série est géniale aussi, c'est l'interprétation de Phoebe Waller-Bridge qui n'est pas que bonne scénariste. Elle est aussi vraiment très très bonne actrice. Et la raison pour laquelle ça fonctionne bien, c'est aussi parce qu'elle est hyper expressive.
Ah ouais.
Et qu'en fait, son visage qui porte quand même 75% de la série peut passer de l'émotion à l'humour en une demi-seconde et que tout se lit dans son visage en permanence. Et d'ailleurs, il y avait eu une adaptation française avec Camille Cotin qui s'appelait Mouche et qui était pas mal parce que bah, c'était retranscrit quasiment mot pour mot. Mais moi, j'avais moins aimé. Pourquoi ? Parce que Camille Cotin, elle a un côté beaucoup plus deadpan, beaucoup plus figé en fait dans sa manière de jouer le personnage qui est très très froid et donc elle est moins expressive. Et bon, il y a plein de gens qui ont aimé aussi cette version-là et Camille Cotin est une très bonne actrice. Mais moi, ce que j'adore avec Phoebe Waller-Bridge, c'est que vraiment, on peut tout lire sur son visage. Pourtant, elle nous en dit pas beaucoup. Elle est souvent dans le déni, mais on comprend tout, en fait, dans son regard.
C'était Pic TV. Merci Anaïs.
Merci Marie.
Et merci à vous pour votre écoute et vos retours enthousiastes. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slate Audio ou votre appli de podcast préféré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cette fois, on va vous parler de la série Foundation, qui est diffusé sur Apple TV+. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et une petite déclaration d'amour, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. À très vite.
Salut.